7h43, le son du jour. Mais avant le son du jour, je vais dire bonjour à notre invité Sébastião Salgado. Bonjour, vous êtes un grand photographe. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour vous entendre parler de votre travail et du Brésil. Vous êtes français maintenant, mais vous
je
êtes
suis
peut-être
français
d'ailleurs franco
longtemps maintenant.
Vous êtes même réfugié politique en France. On va l'entendre, vos photos, en fait, on a l'impression qu'elles n'ont jamais été autant au cœur de l'actualité qu'aujourd'hui, avec la crise écologique, avec ces photos de réfugiés que vous avez prises depuis de nombreuses années. Mais auparavant, ce son du jour, je voulais le dédier à quelqu'un qui a eu un combat proche du vôtre, Henri Burin des Rosiers, le frère dominicain qui est mort dimanche dernier à l'âge de 87 ans. J'ai souhaité vous faire entendre la voix de cet homme parce qu'il aimait évidemment le Brésil. C'est un pays qu'il a découvert en 1978 et il a beaucoup œuvré auprès des paysans sans terre. On écoute la voix d'Henri Burin des Rosiers.
Quand je suis arrivé au Brésil, pour différentes raisons, pour ça, un conseiller créé par des exilés dominicains brésiliens qui m'avaient dit « Ah, c'est pas mal d'expérience, la terre, tout ça, bon. » Moi, la dictature m'avait affolé sur ce que j'avais vu, bon, entendu, les exilés frères dominicains, qui, d'autres qui étaient encore prisonniers, torturés, on le savait. Bon. Donc je suis venu ici avec l'idée de me mettre au service de cette province qui souffrait. Hein. C'est comme ça que je suis venu.
La voix d'Henri Burin des Rosiers et l'humanisme de ce frère dominicain rejoint le vôtre. Il le rejoint d'ailleurs quasiment biographiquement, Sébastião Salgado, puisque vous êtes né au Brésil, vous êtes né dans une exploitation agricole, famille très nombreuse, et votre père, qui était fermier, a lui-même été confronté à la question donc de la répartition des terres et de la difficulté pour les petits fermiers de survivre. Expliquez-nous quelle était cette situation-là quand vous étiez petit.
Le Brésil, quand j'étais petit, il avait la grande majorité de sa population à la campagne. Aujourd'hui, c'est un autre Brésil. Quand j'étais petit, le Brésil avait aux environs de 92% des populations rurales. Aujourd'hui, on a à peu près la même chose en population urbaine. Et ce qui s'est passé de ma jeunesse jusqu'il y en a très peu de temps, c'était une lutte permanente pour la terre. On attendait au Brésil une réforme agraire depuis toujours. On a eu une énorme déception avec le président Lula, qui est un président de gauche qui avait au Brésil et qui a manqué de faire cette réforme agraire. Et donc, la bagarre pour la terre au Brésil, elle était énorme. Et ce qui a provoqué le fait de ne pas trouver une solution pour la partition de la terre au Brésil, un énorme exode rural, et tous ces conflits qu'on a aujourd'hui au Brésil, d'une urbanisation accélérée assez récente, c'est qu'en France, on a mis 500 ans pour urbaniser. Au Brésil, on a mis pas même une cinquantaine d'années, et que ça a provoqué des déséquilibres à tous les niveaux de la société.
Ça a ruiné des fermiers dans un régime qui était une dictature. Ça aussi, il faut le rappeler, vous êtes réfugié politique. Le Brésil a été une dictature extrêmement cruelle jusqu'en 1985, c'est-à-dire vraiment hier. Votre père aurait même dû vendre cette ferme. Et puis finalement, il a tenu bon. Et il avait huit enfants. Et vous souvenez de cela et cela a imprégné votre œuvre, Sébastião Salgado.
Absolument. Un peu avant sa mort, mon père a dit une chose très importante pour moi. Il a dit « Sébastien, tu es aujourd'hui un photographe connu à travers le monde, tu vis en France, tu es très connu, respecté, tout. Mais si on aurait vendu cette ferme au moment de la grande inflation, au début de la grande inflation au Brésil, comme la majorité des fermiers de ma région l'ont fait pour partir en ville, pour faire étudier ses enfants, mon père m'a dit, tu serais aujourd'hui probablement un conducteur de tracteur dans une grande ferme de notre région où tu vivrais dans un bidonville dans une grande ville du Brésil. Le fait d'avoir tenu cette terre m'a permis de faire toutes mes études secondaires et une partie des études universitaires où je devais travailler. J'avais un peu d'aide de mon père, mais c'était l'importance de tenir ce morceau de terre qui m'a permis de arrivé où je suis arrivé ici.
Alors, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bazar, mais c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles vous êtes toujours intéressé aux pauvres. Vous avez photographié les pauvres, vous avez un engagement humanitaire plein et entier en faveur des sans-terre, en faveur également de l'écologie. J'ai choisi une photo parce que le problème avec vos photos, Sébastien Salgado, c'est qu'elles sont tellement connues qu'en fait, elles ont imprégné notre imaginaire. J'en ai choisi une, elle présente une femme avec un enfant, une femme allaitant un enfant, c'est une sorte de Stabat Mater, elle a le regard perdu, un regard très mélancolique, elle est photographiée dans la pénombre, en noir et blanc, avec donc peu de lumière, c'est l'une des deux marques de fabrique de vos photographies, le noir et blanc, peu de lumière, et on voit dans ses yeux toute la détresse du monde, il est même quasiment difficile de la voir sans se mettre à pleurer, et je crois que vous-même, lorsque vous êtes face à vos planches contact, lorsque vous choisissez les photos que vous devez agrandir, parfois vous pleurez.
Vous savez, cette photographie, je l'ai fait en Éthiopie en 1984, la fin 84. J'ai fait un grand travail avec Médecins Sans Frontières. Je suis devenu moi-même Médecins Sans Frontières pendant à peu près un an et demi pour faire ce travail. J'ai parti en Éthiopie, au Soudan, au Mali, au Tchad, un peu partout dans le Sahel, à l'époque de la grande famine, de la grande sécheresse. Et cette photo, je l'ai réalisée dans un camp de réfugiés au nord de l'Éthiopie. Vous savez, cette photo, elle pourrait représenter exactement ce qui se passe aujourd'hui partout au monde. On parle aujourd'hui des réfugiés de l'ex-Birmanie, de Myanmar. On a parlé sans arrêt pendant les 2-3 dernières années des réfugiés en Europe. Mais en réalité, c'est une situation qu'elle était toujours la même. Aujourd'hui, on parle beaucoup des réfugiés en Europe parce que les réfugiés ont touché l'Europe. Mais j'ai un livre qui a été publié en l'an 2000 où j'ai travaillé 6-7 ans avec des populations déplacées au monde qu'il pourrait être publié aujourd'hui, il serait d'actualité totale. Il n'y a aucun changement.
Ce livre, il s'appelle Exode.
Exode, absolument. C'est lui qui s'appelle Exode. Et quand vous racontez un peu mon histoire, c'est celle-là aussi. J'ai quitté la ferme de mes parents quand j'étais un gosse, quoi. J'avais 15 ans. J'ai parti dans une grande ville au moment qu'un énorme mouvement de population se faisait au Brésil de la campagne vers les villes. De cette ville où j'ai pu faire mon école secondaire, mon université, après je pars à São Paulo. Après, pour des questions politiques, on vit en France. On est devenu pour un moment réfugié politique. Et aujourd'hui, j'ai la nationalité française et brésilienne. Mais en réalité, je suis un immigré. Vous savez, cette histoire, je la connais, je l'ai vécue, je la connais très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens, ils ne vivent pas dans une détresse psychologique. C'est des gens qui vivaient dans un équilibre, qui avaient une maison, qui avaient une façon de vivre, qui avaient un travail, qui avaient un équilibre total. Et d'un moment à l'autre, quelquefois sans même savoir pourquoi, ils ont été mis sur la route, ils ont été mis à la rue. Ils partent par des centaines, par des milliers, par centaines de milliers, à la recherche d'un autre point d'équilibre. Ils ne sont pas désespérés, ils cherchent à rééquilibrer à nouveau. Ces réfugiés qui viennent en France, qui viennent en Allemagne, qui quittent ce pays, c'est des personnes qui cherchent à travailler, qui cherchent à contribuer, qui cherchent à s'intégrer dans une autre culture. C'est des gens pleins de dignité. C'est une manière que j'ai voulu dans mes photos, c'est de montrer plutôt que la détresse des gens, montrer la dignité des gens. Parce que c'est des gens qui ont une énorme envie d'équilibrer à nouveau, d'avoir la cellule familiale rétablie, de vivre dans une communauté. Ils ont une idée très forte de ce que c'est la solidarité. Parce que d'abord, ils ont besoin. Deuxième, ils vivent dans la solidarité de leur groupe de réfugiés. Donc, c'est des gens qui méritent un énorme respect.
Et lorsque vous photographiez cette femme, alors cette femme, donc, c'est une femme qui est dans un camp de réfugiés, c'est une femme éthiopienne, mais on peut trouver également des photos dans votre œuvre actuellement. Et il y a une exposition qui est consacrée à vos travaux, Sebastião Salgado, à Paris, à la galerie Polka. On voit d'autres femmes, on voit des Rwandaises, par exemple. On voit des femmes qui ont échappé à la guerre, à la pauvreté, ou qui sont au cœur de la détresse humaine. On a l'impression qu'il y a une sorte de vocabulaire pictural chez vous qui emprunte finalement à l'universalité de la détresse des hommes et des femmes. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de Stabat Mater. Vous avez beaucoup travaillé avec des associations et avec la presse chrétienne, même si je crois que vous n'êtes pas croyant. Est-ce qu'il y a une forme comme cela de sacré face à cette misère?
Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une chose majeure dans notre espèce humaine, dans l'homo sapiens. C'est notre capacité grégaire. Vous savez, les grandes valeurs, ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas le cynisme, ce n'est pas l'individualisme. Les grandes valeurs qu'on a, c'est celui qu'on a pris de nos parents. C'est qu'on apprend dans les règles des bases, dans toutes nos sociétés. Et c'est la communauté, c'est la solidarité. Et là, on n'a pas besoin d'être croyant ou pas croyant pour participer dans ces grands mouvements universels de solidarité, comme les prêtres dominicains français qui sont partis au Brésil, pour participer dans ces grands mouvements des paysans brésiliens. Vous savez, c'est ça que je crois, les grands espoirs pour nous, de l'espèce humaine, c'est ces courants solidaires qu'on a vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis aujourd'hui de notre planète, parce que ça commence à avoir aussi une grande préoccupation avec la planète, qu'on commence, peut-être pour la première fois dans l'histoire de notre espèce, nous intégrer avec notre planète. Je crois qu'on commence à voir un mouvement de retour vers la Terre, vers les montagnes, vers les forêts, vers les autres animaux. Peut-être que c'est seulement là que l'homo sapiens va se réintégrer avec sa planète, parce qu'il y a vraiment un mouvement planétaire dans ce sens.
Mais alors maintenant, comme le disait votre père, vous êtes un photographe très connu, Sebastião Salgado. Vous parlez avec des chefs d'État, vous connaissez Lula. Est-ce que ça ne vous fait pas mal au cœur quand vous voyez par exemple que la France, votre pays, a accueilli finalement très peu de réfugiés, que ce mouvement de solidarité n'a peut-être pas été aussi intense qu'on aurait pu l'espérer?
Peut-être dans les médias, oui, c'est que c'est parce que la France n'a pas accueilli énormément de réfugiés, d'émigrés. Mais la France, c'est un pays d'accueil. Vous allez m'excuser d'être un peu contradictoire, mais si je prends mon histoire elle-même, on était très bien accueillis, tel bien intégrés dans ces pays. Et quand vous regardez le nombre des Nord-Africains, d'Africains, des Latino-Américains, des Asiatiques qu'il y en a en France, c'est possiblement les pays d'Europe qui a une composante hétérogène raciale la plus grande de toute l'Europe. Donc, il ne faut pas voir à court terme l'histoire d'un pays. Il faut prendre à moyen-long terme. La France est un pays de solidarité.
Bon, les composantes raciales au Brésil et la manière dont les différentes composantes humaines sont présentes au Brésil est beaucoup plus impressionnante qu'en France. C'est lié à l'histoire, à la géographie, évidemment. Mais lorsque vous retournez aujourd'hui dans votre pays, est-ce que ça ne vous frappe pas justement la manière dont les individus coexistent plus facilement là-bas qu'ici?
Je ne crois pas. Et je ne crois pas du tout. Le Brésil est un pays d'une histoire très récente. On a 500 ans d'arrivée des Européens au Brésil. Bien sûr qu'ils sont arrivés là-bas. Le premier courant d'arrivage en Amérique, qui selon les théories, il est arrivé à peu près à 20 000 ans avant. Et quand les Portugais sont arrivés au Brésil, ils ont rencontré ces gens qui sont arrivés avec eux, la même espèce, et biologiquement, exactement la même espèce. Tant que, quand arrivé au Brésil, c'est arrivé seulement des hommes. Les Portugais sont venus pendant des dizaines d'années que des hommes. Les premières femmes portugaises sont arrivées au Brésil 55 ans après l'arrivage des premiers hommes. Et quand les Santos sont arrivés, ils avaient déjà des millions de Portugais, hommes au Brésil, qui se sont mélangés avec les femmes indiennes. Et à partir de là, ça a commencé ce mouvement des courants migratoires qui venaient d'ailleurs, venus les Africains, après, c'est arrivé d'autres Européens. Mais tout ça, c'est très récent. Votre histoire, c'est différente. Votre histoire, c'est une histoire vraiment de tribus qui existaient ici et qui ont devenu vraiment français dans leur histoire jusqu'à très récemment. Vous avez accepté les grands courants migratoires, c'était le siècle dernier. Avant, il n'y avait pas énormément. Et c'est ça qui m'étonne beaucoup. C'est un pays qui a toutes ses racines constituées depuis très longtemps et qu'elle a admis une entrée massive des courants étrangers dans son territoire.
Vous êtes arrivé en France, Sebastião Salgado, en tant que réfugié politique, maintenant que la situation au Brésil est le retour à la démocratie, même si cette démocratie connaît des heures difficiles aujourd'hui. Vous n'avez jamais eu envie de repartir pour vous installer définitivement au Brésil ?
J'ai eu, absolument. Mais vous savez, on a deux enfants. Un fils qui aujourd'hui est cinéaste, qui vit la moitié au Brésil, la moitié en Allemagne, et un fils handicapé. On a un fils qui est trisomique, qui est né en France, et l'infrastructure assistentielle pour des handicapés en France est tellement fantastique que quand on a pensé aller au Brésil et qu'on a voulu se fixer, on a vu que pour notre fils, c'était mille fois meilleur de rester en France. Et on a resté dans un pays qu'on aime beaucoup. On adore la France. On a des grands amours dans notre vie, que c'est le Brésil et la France.
La France vous aime beaucoup aussi. Vous restez avec nous, Sebastião Salgado. À 8h20, on poursuivra cette découverte de votre œuvre, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis, on évoquera également la photographie, la situation politique au Brésil. 8h sur France Culture.